Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour, bienvenue dans cette chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien Pénary.
Alors, pour reprendre un slogan bien connu il y a quelques années, à Toulouse, on n'a peut-être pas de la pierre, mais on a de la terre. Et ça nous conduit aujourd'hui à évoquer un sujet, la manufacture Giscard, que les Toulousains ont peut-être pu visiter pendant les journées du patrimoine sur la colline de Jolimont. Alors Aline, cette maison Giscard, de quoi s'agit-il? Et cette manufacture
Giscard? Alors, cette manufacture Giscard, elle a une très belle histoire. D'abord, je rebondis, Sébastien, sur ce que vous venez de dire. Moi, en ce qui me concerne, mais je ne suis pas la seule, je n'ai pas pu visiter la fabrique Giscard qui était ouverte pour les journées du patrimoine. Ça veut dire pour moi et pour beaucoup une chose, c'est que les Toulousains sont passionnés par l'histoire de ces décorations qu'on voit partout à Toulouse, très présentes dans les rues, qui font partie de notre histoire et de notre identité toulousaine.
Exactement.
Alors, avant de parler peut-être de la manufacture Giscard en elle-même, on va peut-être brosser un peu le contexte.
Oui, revenir à l'origine de cette manufacture, ou plutôt à ses antécédents.
Oui, à ses antécédents, et notamment aux antécédents qui ont permis de mettre en œuvre tout ce qu'on connaît de la production de Giscard, tous ces beaux éléments d'architecture, sculpture, etc. On est au milieu du 19e siècle et dans une ville où, vous l'avez dit Sébastien, on n'est pas une ville de pierre parce que la pierre, les gisements sont beaucoup trop loin, ça serait très coûteux pour la faire venir, mais on est dans une région où l'argile a des qualités plastiques très intéressantes. Donc, depuis les Romains, tout le monde sait ça, Toulouse vraiment se nourrit de la brique pour faire ses constructions. La brique, elle va être fabriquée avec des procédés très artisanaux, des formats différents, jusqu'au milieu du 19e siècle où on va s'engager dans un processus d'industrialisation, que ce soit pour la brique de construction ou que ce soit pour la production de briques en général. Alors, ça rejoint un petit peu la mécanisation des arts, qui est un vieux rêve qu'artistes et artisans n'ont pas cessé de poursuivre depuis la Renaissance. Là, nous y sommes et on est capable de mettre au point maintenant, avec des procédés bien étudiés, des matériaux de terre cuite résistants. Le premier à s'être intéressé à cette évolution, c'est la manufacture Virban.
Du nom de deux frères.
Cinq frères. Je crois. Cinq frères qui sont les fils du Virban, qui est l'architecte, on va dire pour faire court, il a fait bien d'autres choses, de la place Willison, ancienne place Villeneuve à Toulouse. Grand architecte de la ville. Les fils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas trop d'intérêt à suivre ce parcours de leur père, mais ils s'intéressent beaucoup à la construction. Ils ont une formation aussi dans le domaine des beaux-arts et ils vont s'intéresser à la production de la brique. Ce qu'ils vont faire en s'inscrivant dans le processus d'industrialisation, et ils vont inventer un procédé qui est un procédé qui va révolutionner toute la production de la brique, en particulier de la brique d'ornement, qui est un procédé qu'ils font d'ailleurs breveter en 1831 sous le nom, pardonnez-moi, c'est un nom de plinthotomie. Alors, plinthotomie, c'est un nom bien compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire ? Auparavant, les briques étaient moulées, mises dans des petits carrés de bois, mises à sécher, etc., que ce soit la brique de construction, par exemple. Et de la même chose pour la terre cuite, c'est-à-dire qu'on façonnait la terre cuite, et puis ensuite on faisait sécher, on la faisait cuire, avec tous les risques de cuisson que ça comportait. Alors, Auguste Virban, il dépose ce brevet qui est un brevet qui va associer l'usage de la presse avec des moules. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, sur des éléments de décoration de façade, des oves, par exemple, on va vraiment les mouler.
Et les produire à l'infini.
Et les produire en série. Oui. Voilà. Avec, bien sûr... Alors, ça, c'est un procédé, dans un premier temps, assez simple, pour des décors, des éléments de décor simples. Mais il va faire mieux, c'est-à-dire qu'il va inventer le... Enfin, il va mettre en œuvre pour la brique le procédé de moule à pièce. Et ces moules à pièce, qui sont des... On a tous fait des pâtés de sable à la mer. Hein. Voilà. Le moule à pièce, c'est un petit peu ça. Sauf qu'il est fermé et qu'à l'intérieur de ce moule à pièce, on va presser de l'argile et elle va s'installer dans tous les interstices qui sont la matrice, voilà. Et ensuite, alors, on va démouler. J'ai eu la chance de connaître Joseph Giscard. Il m'a montré la façon
dont... Le procédé de fabrication.
Voilà, ouais. Le procédé de fabrication et comment manier un moule à pièces. Ouais. C'est assez compliqué parce que ça se termine par une pièce. Elle est la dernière quand on fait le façonnage, mais elle est la première à enlever quand c'est cuit.
Ouais.
Voilà. Donc, alors, cette évolution technique... elle a aussi entraîné une maîtrise de la qualité et de la couleur des terres. Parce que il fallait mettre des... Maintenant qu'on produisait davantage, il fallait mettre au point des terres bon marché, qui soient adaptées au moulage de série. Et c'est la première difficulté qu'ils ont quand même rencontrée. Ils ont résolu le problème de la façon suivante. Ils ont mélangé des terres extraites de lieux différents, et la plupart des pâtes qui seront utilisées au XIXe siècle vont contenir désormais un amalgame de pâtes de terre différentes. Donc ça devient, on n'est plus dans la matière naturelle, on est dans un produit industriel qui est plus complexe. Dans un premier temps, mais c'est un petit peu peut-être long à expliquer.
Ça permet de jouer sur les couleurs, notamment.
Ça permet de jouer sur les couleurs.
De jouer sur la solidité du matériau, peut-être aussi.
Et la solidité du matériau et d'avoir des coloris assez différents, parce qu'on va mélanger des terres blanches, des terres plus ocrées, des terres plus rouges. Et on va aussi avoir une terre cuite qui va être blanche. Parce qu'on va introduire de la poussière de pierre. Hein. Voilà. Donc, on ne connaît pas la composition exacte de cette production blanche, mais on sait que l'imitation de la pierre était obtenue grâce à de la poudre de calcaire. Alors, c'est dans ce contexte foisonnant d'innovation... Hein, dont les Virebans tiennent quand même la tête avec leurs brevets, que se fonde en 1855 la manufacture Giscard. La manufacture Giscard, elle est installée avenue de Terre-Cabade à Toulouse, à proximité du grand cimetière de Terre-Cabade.
25 avenue de la Colonne.
25, merci. On ne peut pas la manquer. La façade est vraiment l'expression de toute la production de la maison.
Oui. Elle vaut vraiment le détour.
Elle vaut le détour.
Je confirme.
Oui. On ne va pas en dire plus, mais je pense que, voilà, on ne peut pas la manquer. Et donc, dans ce 25 avenue de la Colonne, pendant 150 ans, on a une production, qui est une production qui, au début, va être foisonnante, et puis qui va s'éteindre tout doucement. Alors, la création de la manufacture, elle est quand même liée au Virebans, non seulement par le contexte, mais par la filiation, si je puis dire. Hein, puisque Jean-Baptiste Giscard, qui était agriculteur, va s'employer à la manufacture Virebans, qui est à Launaguet. Je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais la manufacture Virebans est à Launaguet. Et il aura le poste de contremaître au sein de cette manufacture, qui est très importante. En 1850, il va la quitter. Il va s'installer avec quelques corrélégionnaires, on va dire, Et puis en 1855, il va carrément créer son propre établissement. Il débute son activité par une tuilerie. C'était bon, sans doute beaucoup plus prudent. Mais très rapidement, sa production va s'orienter vers l'ornement d'architecture et l'art religieux. Alors, il décède et son fils Bertrand, en 1800, au début du 20e, prend la direction de la manufacture. Il est lui-même sculpteur, excellent sculpteur, et il enrichit l'atelier de nombreux modèles religieux qui répondent à l'accroissement de demandes dans ce temps d'intense dévotion, exactement comme l'atelier de verrier de Louis-Victor Gesta. Hein, voilà. On verra qu'ils vont subir l'un et l'autre le même sort, qui est l'amenuisement de la dévotion, finalement.
Ils vont également accompagner le besoin de monuments aux morts dans la région.
Exactement, après la guerre de 14. Ouais. Ensuite, on aura, à la mort de son père, Henri Giscard hérite des bâtiments, il perpétue la tradition familiale, tout en occupant le poste de professeur de céramique et de moulage à l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Et on va continuer la dynastie. Joseph Giscard, que j'ai eu la chance de côtoyer,
qui est le dernier
après
de la dynastie.
Les études à l'école des Beaux-Arts de Toulouse, il reprend l'activité de son père, elle était déjà bien, bien amenuisée. Alors, ce qu'il faut retenir de la manufacture Giscard, c'est qu'elle représente vraiment le conservatoire de toute cette fabrication et de toute l'ornementation qu'on peut voir dans toutes nos rues de Toulouse. Donc, allez visiter la fabrique Giscard et vous verrez comment on fait avec les moules à pièces.
Et marcher le nez en l'air dans Toulouse.
Et marcher le nez en l'air, oui, oui, exactement.
Merci Aline, bonne semaine.